Non, je vais avoir votre point de vue aussi, à la fois sur l'image, disons physique, l'image de, qui fait partie de la conscience collective du dragon, cette grosse bête avec des... Et aussi sur, sur l'universalité du calistère, qu'en fait on retrouve des dragons partout, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, on en retrouve partout. Alors que normalement, ce sont des continents qui sont des peuplades, des civilisations qui n'ont pas eu beaucoup de contacts, même en Océanie. D'après vous, pourquoi est-ce qu'on retrouve cette image du dragon? Est-ce que c'est quelque chose de vraiment primal, ou est-ce que c'est quelque chose qui est passé de civilisation en civilisation?
Déjà, tu regardes les éclairs dans le ciel, tu as des orages à peu près partout. Tu regardes les rivières, si tu prends un peu de hauteur, enfin voilà, c'est le dragon au départ, mais il est à ce phénomène-là.
C'est
universel.
C'est vraiment les portes de la nature.
Oui, moi je pense que c'est aussi volcanique.
Ils ont existé, donc.
Après, il est fort probable que déjà à l'époque, en creusant un peu, parfois, on trouve des ossements,
voilà, de dinosaures. Ouais.
Dinosaures. Et puis, quand tu combines tout ça, ça donne la matière.
Non, pas mieux, je cherche un truc. En fait, non, mais tu as dit on le trouve partout. Et j'essaie de te retrouver le drapeau africain qui cite le dragon. C'est le seul pays, en fait. Il n'y a pas de dragon en Afrique. C'est comme ça. Désolé pour eux, c'est comme ça. Il y en a partout. Il y a, et alors, je rejoins mes petits camarades sur le. Mais pardon, mes camarades, le petit paternaliste, il aime bien. Non. Oui, je sais, ça m'arrange. Hein. Ouais, c'est, des fois, je touche pas les bords. Hein. Bon, bref, j'ai évité ma voix pour rien ou pas, mais ça dénonce tout de suite. Il y en a partout, sur tous les continents, à part en Afrique. Je rejoins mes camarades sur le fait qu'effectivement, il y a forcément eu des fouilles. J'ajoute à ça que le berceau, alors là je vais devenir très sérieux parce que j'ai fait l'encyclopédie là-dessus, dans une autre vie. Le berceau occidental du dragon, c'est la Suisse. Ouais. Ah, ça vous calme ça. Non. 2 minutes sérieux, historique. Pourquoi? Parce que montagne, énormément de grottes et à l'époque énormément d'ours. Or, et je vous invite, car Google est ton ami, à vérifier le squelette de l'ours qui, sous sa fourrure, donne l'impression d'être très rond, en fait a une gueule qui ressemble très fortement à celle du crocodile, extrêmement plate, allongée et avec des ratiches comme ça. On est bien d'accord? Quand ça hiberne, ça adore lever. Et parfois, ça meurt pendant l'hibernation. Donc il suffit qu'un gugus, avec un peu d'imagination, aille chercher avec une torche et voit ce truc de loin, et tu commences à créer des légendes de bestiaux levés au fond de cavernes et tout. Et tu remarqueras que les légendes sont tenaces, puisqu'en Suisse, sous terre, on trouve encore des trésors plein partout.
Voilà ce que je veux dire. Ce qui explique que les Suisses soient tous des banquiers.
De sérieux, vous étiez offert par Orangina Rouge.
J'ai d'ailleurs vu à l'époque où on fabriquait des fausses créatures, dans les siècles passés, là, ils avaient fait un mini dragon, ils avaient créé un squelette de chat à la base. Et le chat, l'ours et le chien ont un ancêtre commun qui est le miasis. J'avais rajouté des ailes de chauve-souris.
Alors c'est rigolo aussi, c'est qu'on a cru, alors après je pense qu'on les a, en Occident en tout cas, extrêmement diabolisés, donc on a fait un lien avec la religion, d'où les ailes. Puisque quand tu vas en Asie, les ailes, il n'y en a jamais eu, ce sont des espèces de serpents qui se déplacent avec des flammes, ainsi de suite. Autre chose, c'est que chez nous, là, on trouve des tronches de dragons à l'extérieur des églises. C'est le mâle qui reste dehors, qui vole le truc avec ça. Ok, alors qu'en Asie, c'est très rigolo, mais vous en avez sur. Je suis né au Cambodge, j'ai vu sans Viet, puis j'ai vu une enfance malheureuse. Sur tous les toits des maisons, vous avez des têtes de dragons, mais là, ce sont des dragons protecteurs. Ils sont là pour vous apporter du bien, et ils vous protègent des démons. Donc c'est très rigolo de voir que le curseur, on l'a placé plus ou moins en déplaçant sur la planète. Et puis après, même quand tu vas aux États-Unis, effectivement, les Quetzalcoatl, les compagnies, c'est toujours des créatures qui crachent du feu, qui sont puissantes, qui volent.
En Amérique du Sud, c'est les créatures de puissance. Pas forcément bénéfique ou maléfique, ouais. C'est juste la puissance qui parfois ça peut déraper. Ouais.
Donjons et dragons sont neutres.
Ça dépend de la couleur.
Et si tu prends dans l'Antiquité grecque, avant l'arrivée du christianisme, L'hydre de Lerne, par exemple, c'était c'est la symbolisation d'un culte de la déesse mère. Le dragon a été associé aux déesses mères, même chez Gilgamesh, donc chez les Assyro babyloniens. Et à partir du moment, quand on, même Saint-Michel qui vint le dragon, c'est pas que qui vint Lucifer, c'est aussi une métaphore du christianisme qui vint le paganisme, qui osait toujours vénérer les déesses mères associées au dragon et au serpent, qui sont des animaux. Enfin voilà, le serpent qui prend son essor, qui est psychopompe, donc qui relie les forces souterraines avec les forces du monde du dessus, et qui en plus peut s'envoler, aller dans le ciel, parce que on trouve les trois types de dragons, le dragon tellurique, le dragon céleste et puis le dragon aquatique. Voilà.
C'est vrai
qu'on les note, hein, parce que tout à l'heure il y a un terreau.
C'est enregistré.
Non, il n'y aura pas le truc là-dedans. Après, c'est...
Donc c'est aussi pour ça que ça a été diabolisé en Occident, puisque la femme elle-même a été diabolisée en Occident. Ouais.
Qui en alchimie réunit les différents différents éléments, tout ça. Mais c'est vrai qu'en autant en Asie, on a la perle de sagesse qui est portée par les dragons, qui est donc le dragon est un symbole de sagesse. On les retrouve, les dragons se métamorphosent, justement prennent des formes humaines pour tester les humains parfois. Et alors que c'est vrai qu'en Occident, on se retrouve avec la... En fait, si le dragon, c'est le symbole du mal, de Lucifer...
C'est la bête à tuer.
Voilà, c'est la bête à tuer.
C'est le chevalier qui va tuer la bête.
Et on a chez l'histoire de Fafnir, chez les germano-scandinaves, c'est un homme qui se transforme en dragon parce qu'il est possédé par la fièvre de l'or, ce trésor qui lui protégeait, et puis par le crime qu'il a commis. Donc c'est l'inverse. La transformation en dragon est une sorte de malédiction. Alors qu'effectivement, en Orient, c'est le dragon qui peut prendre forme humaine pour venir au secours des humains, mais c'est toujours une bénédiction.
Oui, mais d'ailleurs, le signe du zodiaque le plus recherché en Chine, c'est le signe du dragon.
Moi, je suis essayé avec un dragon, mère d'un dragon.
Voilà, ils essayent de faire des bébés l'année du dragon. On voit que c'est...
Exactement.
Et pareil, en Océanie, c'est le mythe créateur aussi, le serpent corail qui a créé le monde, qui entoure le monde, qui a tout généré, en fait.
On retrouve
le Quetzal aussi, donc tout se tient, et c'est ça qui est vraiment surprenant, étonnant, d'avoir des mythes fondateurs très très proches de
par exemple de la Comme le serpent de mer chez les druides, l'œuf cosmique, qui est l'ours représenté par l'ours impossible. Le serpent de mer, c'est aussi une forme de dragon, un dragon aquatique, tout simplement. Donc voilà, c'est une universalité.
Voilà.
Eh bien, merci.
Vous avez une autre question, c'est
ça? Non, mais justement, alors cette universalité, est-ce qu'il faut la perpétuer, ou est-ce qu'il faut simplement s'en servir? Est-ce qu'il faut créer de nouveaux mythes? Est-ce qu'on peut encore créer de nouveaux mythes sur les dragons, justement? C'est ce que vous essayez dans vos romans, ou est-ce que vous allez juste piocher et développer un des aspects
un nouveau mythe, c'est un peu prétentieux. Je vais être à l'origine d'un mythe fondateur tout neuf.
Non,
j'irai pas jusque là, mais c'est vrai que c'est un élément qui est intéressant à exploiter parce que justement on peut en faire ce qu'on veut, qu'on peut utiliser à la fois cet aspect négatif ou positif. Moi j'aime bien le côté positif, ça doit être mon côté enfance qui remonte avec Elisabeth Le Dragon, chanter des chansons, quitter le copain et tout. C'est vrai que l'utiliser pour toutes ses qualités et ses défauts qu'on lui a raconté, je trouve que c'est intéressant, et il est aussi divers et différent selon les cultures, et pourquoi pas. Moi je pense que j'ai été mise dans cette conférence parce que là je sors une nouvelle saga avec qui s'appelle L'héritier des Draconis, qui parle de dragons, et c'est vrai que j'essaye d'utiliser tous les dragons. Voilà, c'est l'histoire d'un garçon qui se transforme en dragon. Et à chaque fois, il doit choisir un modèle de dragon qui correspond à la situation qu'il est affronté. Et donc, j'utilise aussi bien la forme asiatique du dragon que celle plus européenne, une espèce de gros monstre à ailes que le chevalier a tué. Voilà. Donc, il n'a pas tué, heureusement, mais voilà. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est. Il est dans l'imaginaire de tous. Quand on dit dragon, les gens savent de quoi on parle. C'est pas quelque chose qu'on est obligé de réinventer entièrement. Et en même temps, on peut lui donner la direction qu'on veut, parce que il a tous ses visages différents, donc c'est intéressant à exploiter sans ça, je pense.
Ah ben, chez moi, le dragon, c'est le chaînon manquant entre les humains et les races qu'il y avait avant. Et il a la double forme, il peut prendre en volonté au départ la forme humanoïde et la forme écailleuse. Et puis, à un moment donné, dans son histoire, il est confronté à trois rivières. Et puis, selon à laquelle ils vont voir, il y a trois clans qui vont se former. Et un qui va rester prisonnier de la forme écailleuse et devenir fou, et donc être à l'origine des histoires de dragons tueurs, de monstres, etc. Et puis, comme de toute façon, ils sont tous tués même entre eux, ils vont disparaître. Et puis, les autres dragons qui ont formé même. Alors, il y a le clan qui lui perd totalement l'accès à la forme écailleuse et qui devient les humains, et qui oublie d'où il vient. Et c'est donc ses liens et avec les dragons et avec les peuples plus anciens. Et puis, il y a donc les dragons de la tourbe noire qui sont ceux qui sont finalement les découvreurs de la magie et qui eux se sont mis en retrait mais viennent encore un petit peu se mêler de eux-mêmes sous une forme humaine et s'ils reprennent leur forme écailleuse voilà, ça peut poser des problèmes. Voilà.
Pour en revenir à ta question, je ne pense pas qu'on puisse créer quoi que ce soit, effectivement. On peut juste s'approprier une partie du mythe, et puis c'est comme les actes de musique, hein. Chacun fait sa petite mélodie, et puis voici ça parle aux autres. Je pense que tout a été écrit depuis très longtemps. C'est effectivement dans l'imaginaire populaire, c'est vraiment, ça fait partie de notre ADN. Je crois que, effectivement, partout sur la planète, tu dis dragon, ça fait une image. Et que les écrivains sont là pour rajouter des petites nuances à la palette. Donc le truc, c'est que j'avais écrit les jeux de rôle au siècle dernier, qui faisait appel au dragon et à tout cet imaginaire-là, et qu'après, j'ai publié un roman qui n'est plus disponible, donc on peut en parler librement, ça s'appelle Wonderland. Le principe était que les dragons n'étaient apparus que parce que les humains avaient rêvé d'eux, et qu'ils avaient pris corps. Et qu'après, la guerre pour survivre, c'était de faire en sorte que les humains continuent de rêver d'eux. Donc d'intervenir de temps en temps. Et après, le jeu, c'était pour survivre. C'était du gagnant-gagnant, mais ça fait un peu politique de merde. C'est du donnant-donnant, c'est-à-dire qu'il se branchait sur les rêves d'écrivains, de musiciens, de peintres, de quoi. Ils intervenaient dans leurs rêves. Donc ils prenaient corps. Plus le créateur avait un imaginaire flamboyant, et plus le dragon s'y sentait à l'aise. Et quand je te dis que c'était donnant-donnant, c'est que le dragon allait se ressourcer là-dedans, prendre de l'énergie, mais en même temps, parce qu'il volait, étendre les frontières et permettre au créateur de toujours se renouveler et d'avancer. Voilà. Vachement beau.
Tu vas à Clinix ?
Comment ?
Tu vas à
Clinix ? Non, c'est à la fin seulement.
Justement, en jeu de rôle, c'est vrai que le dragon est très utilisé, il a été très décliné jusqu'au cyberpunk, jusqu'à Rêve Dragon, qui est l'inverse
jusqu'à
de
ton
roman.
Ouais, c'est ça, Denis a fait faire un truc où le monde était un rêve de dragon, c'était vachement beau, ça. Une super idée. En fait, le jeu de rôle a été... sur 10 ans, une espèce de gosse capricieux apparu ex nihilo, et puis qu'il a fallu domestiquer. Et voilà, donc au départ, c'était effectivement à la fois formidable, parce que Gygax, avec son donjon et le dragon, c'était marqué dessus, comme son corps, lui, il y avait des dragons partout, a amené un truc, vraiment. Il a amené une autre façon de raconter des histoires. Il a surtout appris à toute une génération qu'on avait le droit de se raconter des histoires, donc ça, c'est génial, que tout le monde... Tu vois, autour de la table, tout le monde participait au truc et enrichissait. Ça, c'était génial. Et en même temps, il a fait que les moyens du bord, Gygax. Il est parti de jeux militaires de merde avec des petites figurines partout, tu vois. Et en fait, il s'intéressait à l'humain. Donc, il a zoomé de plus en plus. Et puis après, il s'est dit, pourquoi je ne jouerais pas celui-là, le mec perdu au milieu du truc. On s'est approprié le personnage, patati patata. Voilà. Sauf que c'était des jeux qui faisaient genre 600, 800, 1000 pages de règles et qu'il fallait donc des archétypes. Donc il a découpé les dragons en tranches, en couleurs, avec des caractères qu'il a plaqués dessus. Et puis, au fil des ans, d'autres créateurs sont venus pour créer d'autres jeux de rôle. sans Gygax, on ne serait pas là, on n'aurait pas... Il y a eu toute une génération d'auteurs qui sont sortis de là. Mmh. Tu vois, Anne et Gérard Guéraud sont arrivés directement du jeu de rôle, Fabrice Collin, il y a eu toute une génération qui est venue là. Et petite, ouais, Eric, enfin tu vois, même Chatham, hein, c'est rigolo, il a grandi à Donjon et à Cthulhu et toutes ces choses-là, et a raconté des histoires. Et puis petit à petit, en fait, d'autres créateurs sont venus. Et encore une fois, c'est pareil, tu as Gygax au départ qui avait déjà tout raconté, parfois maladroitement, et puis petit à petit, on s'est mis à rajouter des trucs, à polir un petit coup ici. Voilà. Et puis moi, ce que je trouve formidable, c'est rigolo, je regarde de temps en temps, je me fais des plans nostalgie. À regarder un peu ce qui se fait, je comprends plus rien. Les gamins aujourd'hui jouent à des jeux de rôle. Oula, tu es donc très très vieux, c'est bientôt la fin. Mais ce que je trouve merveilleux, c'est que nous on avait besoin d'être aidés, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on aille dans une boutique acheter des scénars, qu'on retravaille à notre sauce. Aujourd'hui, les gamins, ils ont intégré tout ça, c'est formidable. Tu sais, comme nos grands-parents lisaient des BD, vous vous rappelez du truc, ils lisaient. Alors, il y a une case avec du texte, après je vais regarder l'image, puis je vais regarder ce que les gens se disent. Nous, on avait appris à choper directement la case complète. Et puis, la génération aujourd'hui, ils nous regardent comme des dinosaures, parce qu'eux, avec les mangas, ils se matent une planche complète. Tu vois ? Le jeu de rôle, c'est la même chose. Les gamins d'hier sont les meneurs de jeu d'aujourd'hui. Ils ont le récit par cœur, la gamme. Et donc, ils savent improviser, c'est super. Mais par contre, je ne comprends plus rien, je suis admiratif.
Est-ce que vous allez continuer à utiliser le dragon ? Toi, tu as commencé une série.
Forcément. Il y en a de plus en plus au fur et à mesure des tomes. Donc je m'amuse, je crée mon propre. Voilà, je recrée mon propre bestiaire à partir d'éléments existants, bien sûr. Parce que l'idée, c'est que mon petit personnage qui a presque 10 ans dans le premier tome, c'est vraiment jeunesse, mais il vieillit à chaque tome, il est un petit peu plus âgé. Doit apprendre à utiliser le... En fait, l'idée, c'est que le pouvoir qu'il a, c'est qu'il a des petites statuettes de dragons qui sont sculptées dans un bois spécial, et quand il les regarde, la statuette s'anime et il prend la place de la statuette à l'échelle, bien sûr, et il a sa statuette à lui, petit garçon, dans la main. Il faut pas qu'il la perde, parce que sinon il reste un bras. Voilà, donc au début, le premier, il apprend qu'il arrive dans un univers où on a détruit toutes les statuettes, donc il n'en reste plus qu'une. Et après, il va rencontrer quelqu'un qui est capable de resculpter des statuettes de dragons et multiplier les modèles. Donc l'idée, c'est que moi, je m'amuse à créer un bestiaire pour qu'il ait des dragons qui correspondent à des situations qu'il peut utiliser quand il a besoin d'être tout petit ou très grand, ou aller dans l'eau, ou voler, ou bien utiliser l'électricité, ou des choses comme ça. Donc je prends la base du dragon qui existe et je vais m'amuser à le modifier autant que j'en ai envie et besoin pour créer tout un bestiaire qui correspond à cette histoire particulière. Donc là-dessus, il y a tellement de possibilités et c'est vraiment un jeu amusant de me dire « Ok, donc là, il se retrouve dans telle situation. Qu'est-ce que je peux imaginer comme dragon qui pourra l'aider dans cette situation ?» Puis l'idée aussi, c'est qu'il faut qu'il se plante un petit peu. Donc voilà, mais c'est très amusant à raconter. Donc au fur et à mesure, l'idée, c'est qu'il y ait un choix de plus en plus important et qu'il apprenne à maîtriser ce pouvoir et ses capacités et pour affronter toutes les aventures qu'il rencontre en chemin dans sa quête. Donc c'est toujours très amusant parce que comme je disais tout à l'heure, c'est une créature, comme tu disais, on dragon, on a l'image dans la tête, on sait ce que c'est, mais on peut le modeler à notre guise et en faire ce qu'on veut. C'est comme de l'argile, on se dit je vais faire un dragon et puis quel type de dragon va sortir de cette argile, on en fait ce qu'on veut et ça le rend encore plus magique, je trouve, d'être aussi modelable comme ça. C'est une source brute en fait pour l'imaginaire.
Bête brute primale.
Complètement. On peut faire gentil, on peut faire méchant.
Le dragon décoche.
Alors il a une sacoche qui est magique. Quand il devient très grand, la sacoche s'adapte à sa taille et quand il est tout petit, c'est pareil. Et elle a des petits compartiments pour ranger les statues.
Ça donne presque envie d'avoir un jeu.
Ah ouais, mais moi j'imaginais vraiment parce que
je fais
de la sculpture pour le plaisir et la toute première que j'ai faite en argile, c'est un dragon. Et je sais pas si l'un a influencé l'autre ou pas, mais après je me suis dit peut-être qu'un jour je m'amuserai à recréer tout le bestiaire que j'ai imaginé avec de l'argile à mon atelier de sculpture et d'en faire une petite exposition sur une étagère comme ça avec tous les dragons. Ce serait amusant.
Et c'est le faux ami français fantasy. Bon, une fois là, sur cette créature, ça se plaque bien. C'est-à-dire que tu en fais ce que tu veux. Mmh. C'est sans fin, vraiment. C'est une des rares créatures qui soit totalement qui t'ouvre des champs illimités. Tu en fais ce que tu veux. Je m'amuse depuis des années à me balader avec des livres d'or et aller voir les illustrateurs. Tu vas pas y couper. Aller voir les illustrateurs et leur demander un dragon. Et c'est super rigolo de voir que chacun en a sa vision. Il y en a même qui trichent. Une fois, j'ai un très très grand illustrateur, Rémi Bourgeon, qui était là et qui, toute une journée, s'est pris du chou. Qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, il a fait, c'est merveilleux, une petite silhouette d'un petit bonhomme avec une très très grande épée, un casque, et c'était le capitaine des dragons. Et je trouve mignon, il y a Donald Grant, qui est un illustrateur chez Gallimard depuis 30 ans, un très très bon copain. Et c'est pareil, il s'est pris le chou pendant une heure, et puis à la fin, il a juste ramené. Il m'a dit, ouais, j'en ai marre, c'est complètement con ton idée. Il a balancé le bouquin. En fait, il a dessiné une porte de donjon, qui a juste un bout de queue qui dépasse, qui est coincé, puis il y a un panneau fuck off, go away. Mais, et à côté de ça, et voilà, chacun, il y a ceux qui rentrent dedans, et tu vois, hier, il y avait une immense discussion sur le nombre d'homoplates que ça pouvait avoir, parce que ça a des bras et des ailes. Eh ben ouais. C'est rigolo, puis en plus vous n'y avez jamais réfléchi, mais ça fait comment pour se gratter? Vous avez remarqué, ça a des bras de tyrannosaure. Très souvent.
Et ça se gratte avec la queue.
Et ça se gratte, ouais. On y revient toujours, hein. Non mais, c'est, alors, y a ce, c'est pareil dans les donjons et dragons de base de Gygax, c'était à pleurer de rire. T'avais toujours un immense trésor, un putain de dragon gros comme. Et puis il y avait un conduit de cheminée qui venait. Tu te disais, mais il va pisser comment? Il n'y avait jamais l'ouverture grande comme une cathédrale où tu arrives tranquillou en disant, le gros con est là-bas. Non, non, il passait tout. Ouais, alors, il doit se téléporter ou je sais pas. Mais... Regarde Smoke. Smoke, quand il sort, il fait tout péter. Mais oui, mais comment il est rentré?
Il a tout pété aussi.
Il avait tout pété aussi.
Ah ouais, et donc il a reconstruit derrière. C'est le mec plat facilement. Avec ses petits bras.
Non, mais ça pète tout, et ensuite il y a des éboulis. Ça s'effondre, et donc ça refait une muraille derrière lui.
Parce que eux, ils sont rentrés, c'est, et puis il y avait toujours des arches.
Il faut oublier le film.
Oui,
il faut
oublier le film,
l'évacuer
très loin.
C'est ça. Ouais. Et Tolkien avait fait des études d'architecture, il savait parfaitement qu'avec ces petits gras, il pouvait. Non, c'est... En même temps, là, je fais exprès, hein, parce que dans le jeu de rôle, ce qui m'éclatait le plus, c'est les mecs qui te disaient « Ah ouais, mais ça, c'est pas possible !» Alors que les dragons et la magie, si, d'accord. J'adore ça.
Ouais, mais là, non. Ok. Ouais, parce qu'il y a des limites, on n'importe quoi.
Il n'y a qu'une seule réponse, tu vas faire.
Allez, allez, go, tu téléportes avec ma chaîne. Allez, désolé.
C'est suspension de l'incrédulité, ça. Ah,
mais le TGCM.
Le TGCM, voilà, c'est ça.
Pour les non-connaisseurs, ta gueule, c'est magique.
Voilà. C'est la phrase qui débloque tout.
C'est, voilà, c'est,
ta gueule, c'est mon MJ.
Voilà, c'est le Joker. Ouais.
C'est la phrase du mot jeu.
Mais c'est faux. Mais oui, non, c'est, voilà, moi ça fait des années que je me demande comment le dragon peut voler sans applaudir en même temps. Parce que ou respirer en même temps.
Ou respirer aussi.
C'est l'avantage, c'est qu'on dit, on peut l'imaginer comme on voilà. On n'a pas à se poser.
Mais on a toujours justement, le fait, on a un dragon, on a une bête qui est magique, mais. On veut l'accaparer, on veut la créer, on veut la voilà la matérialiser. Donc à partir de là, on va commencer à se poser des questions. Et même si on retrouve des squelettes, il y a toujours un moment où ça ne marche pas, donc on va imaginer des choses. Justement, en Donjons et Dragons, et même dans l'illustration, depuis ces 40 dernières années, déjà, on part de la bête, on part, si on prend par exemple le smoke de Tolkien, c'est quelque chose de très stylisé parce qu'il n'y a besoin de rien d'autre. On sait que c'est un dragon, donc on sait qu'il y a des ailes, des pattes, des griffes, voilà, hein, il n'est pas content. Et c'est bon. Mais maintenant, quand on voit les illustrations pour Donjons et Dragons ou même pour les couvertures, les dragons sont des bêtes avec des muscles, avec une articulation, avec toute une charpente.
On est obligé de connaître l'anatomie
même d'une créature fantastique.
Mais bien sûr.
Il faut partir d'une anatomie réaliste pour pouvoir décliner ça sur des créatures.
Et puis, pour la prouver, en fait.
Ouais,
à partir du moment où une créature est matérialisée, c'est qu'elle existe. Et c'est la beauté de Raymond. À partir du moment où on y pense, il existe. Point.
Est-ce que ça ne serait pas un apport des effets spéciaux ou de la modélisation 3D?
Non, je ne pense pas, parce que vraiment, c'est plutôt l'inverse. L'idée qu'une bête puisse être vraiment faisable fait qu'on a réussi à la faire. Les premiers dragons vraiment réalistes, c'était avant la 3D.
Je ne sais pas si tu as vu cette merveille, mais qui date de... il y a très très longtemps. Jason et les Argonautes. T'imagines que tout était fait image par image à la pâte à modeler, quoi. Ray Harryhausen, c'était un génie absolu. Et donc c'est pareil, il pensait toujours les monstres en termes de j'allais dire d'architecture, d'anatomie. Il fallait les rendre plausibles, vivants et ainsi de suite.
Il était obligé, parce qu'il y avait
les bidouilleurs géniaux aujourd'hui arrivent à nous dire tiens, c'est vrai. Mais il y a eu tout le travail de fond, de mise en place, de création. Tu parlais sculpture, c'est exactement ça. On avait tous une vague idée en tête, il a fallu la matérialiser, la visualiser vraiment et tout. Et au fil. Regarde les premiers, si tu vas à la pêche aux incunables, les premières couvertures de donjons, tu te marres, puis un jour il y a Elmore qui arrive. Et on s'en prend plein la tronche. Sauf qu'Elmore triche, entre guillemets, il fait des tableaux de 3 mètres sur 4. Une fois qu'ils sont réduits à la taille d'une couve, te donne une espèce d'impression de... C'est la 3D avant la lettre. Mais voilà, le mec du coup s'oblige à réfléchir et tu as une première révolution et après tout le monde va embrayer derrière. Et toujours pareil, c'est la petite palette et à chaque fois on rajoute un petit truc. Et aujourd'hui on a les effets spéciaux numériques qui sont fabuleux parce que la seule qu'on se dit, tu vois chérie, c'était vrai, depuis longtemps on le savait. Ça.
Si vous avez l'occasion de retomber... difficile à trouver, un vieux Disney qui s'appelle le Dragon du Lac de Feu,
ouais.
Le premier dragon au cinéma, mais qui est fabuleux.
Ouais.
Il y a une scène où la... Bon, il triche aussi, c'est une vouivre. Seuls quatre membres, pas six, donc juste les ailes et les deux pattes. Mais à un moment donné, le dragon sort de son antre, et il arrive, il marche comme ça, c'est comme... De face, il est monstrueux, c'est une bête, et il existe, c'est pas possible autrement. Et pourtant, ça date de 1919, 80,
ouais, mais il était dans 2 ans après,
ça fait combien de temps que tu l'as pas vu ?
Oui, c'est vrai que
j'ai envie. C'est David qui enchaînait chez Disney au sous-sol du château de la Belle au Bois Dormant.
Non, c'est un film.
Non,
le dragon du lac.
Oui, ah oui, non, c'est son cousin, parce que tu remarqueras, il a 4 pattes.
Oui, sous le château.
Non, il
n'y
avait pas comme ça,
pas longtemps.
C'est assez de cauchemar. C'est pas le dragon qui faisait flipper, c'était magnifique.
Ah ouais, bah oui.
Voilà, merci. Si tu peux te permettre, je sais pas si tu connais cet illustrateur, mais Mathieu Coudray, ses dragons, ils sont juste magnifiques. Et là, il a fait son rapport sur les chats, parce que c'est ses deux trucs avec les chats et dragons. Et il a un projet sur les dragons, moi j'attends ça.
Toujours en revient, toujours à l'ossature et tout, chat et dragon. Obsessionnel, mais c'est pareil dans l'évolution. Le dragon, au départ, en Occident en tout cas, c'est ça qui est rigolo aussi. C'était un truc très massif, c'est tout en puissance, en lourdeur. Et je trouve qu'à mesure, ça reste gigantesque. Mais tu as un côté félin qui apparaît chez le dragon. On le voit de plus en plus capable de faire des trucs, et on va de plus en plus piocher en Asie ces mouvements fluides et ces choses-là. Au départ, c'est le chemin inverse de Conan, qui a été écrit comme un voleur et qui a fini chez vous, ses membres musculeux, à péter des portes à coups de pompe, tu vois. C'est marrant. Donc c'était ma parenthèse rigolote.
Sinon, si
je
peux raconter une histoire. Il y a une légende, alors je ne sais plus si elle chinoise ou japonaise, c'est un chinois, ou c'est un empereur qui demande à un illustrateur très 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 réputé de décorer un paravent en dessinant deux dragons, un dragon bleu et un dragon jaune. Et l'illustrateur, il met des années et des années, donc l'empereur s'impatiente. Et au final, quand le paravent lui est livré, il y a juste un trait bleu et un trait jaune. L'empereur a un peu l'impression qu'on se payait sa tête. Et il veut même couper la tête à l'illustrateur. Et puis en fait, il va voir la pièce où il travaillait, il y a des centaines de paravents, enfin de dessins et tout, et il voit que en fait l'illustrateur il est allé vers les purs de plus en plus pour essayer de retranscrire l'âme du dragon et justement pas tous les détails, juste ce trait. Et ça va pas bien.
Mais si aussi.
Par rapport
si.
Pardon, j'ai plus le nom en tête de la. Je vais revenir à la Chine, de cette province. Et c'est tout récent, hein, comme vous pourrez chercher aussi sur Google, ça va vous occuper quelques heures, c'est grand la Chine. Il y a une province avec une ligne de chemin de fer parfaitement rectiligne qui, à un moment donné, fait une boucle. Alors, c'est pas que l'ingénieur était neuneux et tenait sa règle comme ça. Hein. C'est que les gens de cette province, quand ils ont vu la ligne de chemin de fer arriver, ont arrêté, ont fait des manifestations parce que sous leur sol, il y a un dragon qui dort. Et que les travaux les réveillaient. Et donc, le chemin de fer, hein, c'est pas si vieux que ça. Et donc, on a détourné pour ne pas réveiller la bêche, et on est parti tout.
En Islande, ils ont fait pareil.
En Islande, avec
tu prends l'hélicoptère.
Tu prends aussi en France. Non, c'est quand ils ont tracé la ligne, ils ont contourné le doigt du tsar qui pointait là où il voulait que ça passe.
Et donc, alors ce dragon, qu'est-ce qu'on peut encore en faire? Est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir sur les dragons?
Autant que sur les humains.
Oui. On n'est pas sorti des ronces.
Que le dragon, c'est le reflet de l'âme humaine, de même.
Tu dors. Si, bon, d'accord.
Est-ce que c'est un pendant? Est-ce que c'est un mentor? Est-ce que c'est un avertissement?
Un fantasme aussi.
Un fantasme.
Parlant du fantasme de la création imaginaire, qu'on aimerait bien. Qui existe, qui soit là et se dire on va vraiment rencontrer un jour, je pense que c'est de l'ordre de ça. Et
c'est vrai qu'on lui plaque beaucoup de nos comportements, de nos envies, de ses. Bah,
en même temps, il s'incarne. En fait,
comportement anthropomorphique, mais comme disait Jean-Luc, je pense que on invente peu de choses aujourd'hui de fondamentales. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque auteur, chaque être, personne qui a des idées, chaque personne qui veut penser au dragon peut l'imaginer à sa guise. Et donc il y a toujours à faire. Il y a toujours l'imaginaire de chacun que décliner le dragon autant qu'il le veut, comme moi, hein, comme dans toutes ces histoires. Donc je pense qu'il y a toujours à faire.
Elle a pensé à une sacoche, alors que nous, on lui foutait des poches au dragon.
C'est vrai,
c'est tout de suite plus classe avec une sacoche. Surtout qu'elle est plus brave, j'ai foutu ma
sacoche. Mais c'est parce que mon dragon, il n'a pas de petits bras. Et puis j'imagine comme je veux, il n'est pas forcément à la petite
bras. Non, mais c'est vachement mieux.
C'est un garçon. Ce sont que des garçons, vos petits
dragons. C'est pour ça qu'on les aime.
Oui, mais c'est dommage, parce qu'on aimerait bien aussi les femmes.
Ah, ben justement,
ah non, non, moi c'est pas. Enfin, je ne veux pas spoiler parce que je raconte pas l'histoire.
On y va.
Le problème avec les dragons, c'est qu'on s'y arrête.
Parce qu'ils ont un petit peu des soucis pour se loger. C'est pas évident de trouver des HLM pour dragons quand ils sont sous leur forme écailleuse. Voilà, ça prend de la place.
Ça peut être rassurant aussi. Il n'y en a qu'un.
Ah, tu croises une arde d'éléphant, c'est déjà assez encombrant, ça les empêche pas de vivre en groupe.
Après, ça dépend du contact. S'ils sont dans un monde où ils vont pas être pourchassés par tous les chevaliers qui ont envie de faire des exploits, bah, ils peuvent effectivement avoir des idées.
Comme je dis, on peut l'imaginer comme on veut, en troupeau,
effectivement, en monde, sur une autre planète. Je connais que deux exemples, c'est le binôme et Macafrey. Dans le cas de Macafrey, ce sont des créatures fabriquées par l'homme, et dans le cadre du binôme, c'est un peu plus compliqué.
C'est les anciens. Il y a des femmes
dragons. Il y a des dragonniers, des dragonnières, des dragons. Quand il y a des groupes, effectivement, il y a des dragons. Mais sinon.
Il y a toute une écologie autour du dragon et de la télépathie qui donne de l'ambiance. McCaffrey, des notes magiques.
Pas dans l'édition française de Pocket,
mais
dans
mon histoire à l'envers du déroulement.
Ouais, alors, à lire dans l'ordre de parution.
C'est pas mal, ils sont fous. Tu sais, quand il arrive sur l'île, tu penses qu'il peut effondrer. Ça s'anime, si tu veux rester. C'est une vision. Là, le renouvelle le changement.
À l'époque, oui. Mais c'est une résolution. Mais
tu remarqueras qu'à chaque fois, dans les deux cas, il y a une forme qui précède celle du dragon. Le lézard de feu chez McCaffrey et
les serpents de mer
chez Robin.
C'est plus facile de mettre des très grosses bêtes dans l'océan.
Ça, c'est oui, parce que c'est l'inconnu de la surface plane.
Ce qui est marrant, d'ailleurs, chez McCaffrey, c'est que l'évolution de l'espèce va de plus en plus vers le gigantisme. Puisque Ruth est considéré comme nain, alors qu'en fait, quand il retrouve quand il redécouvre Siav, Siav leur explique qu'en fait, il a juste la taille des tout premiers dragons, quoi. La taille d'Amance et Pharence, en fait. Et il n'est pas blanc, il est de toutes les couleurs. D'abord.
Mais chez Pern, ils sont partis à la base de lézards.
Oui.
Ils sont arrivés au dragon. Donc, oui. Effectivement, c'est la taille exponentielle.
Oui, c'est très très fort au génie génétique.
Oui.
Au début.
Bah, c'est comme les chevaux, hein. Ils étaient tout petits au départ.
Moi, je suis restée tout petite.
Bienvenue au club.
D'où les dragons très grands.
Voilà.
On reste quand même influencé en tant qu'auteur par les autres, par les prédécesseurs. Est-ce que c'est nécessaire, du fait que c'est une créature de l'inconscient collectif, est-ce que c'est nécessaire de réviser ces classiques, que ce soit justement McCaffrey ou des choses comme ça pour Léonce Dragon?
Moi, j'aime bien l'idée de recréer mon univers. De temps en temps, quand je lis des histoires comme ça, je me dis, oh punaise, ça c'est le genre de truc que j'aurais aimé écrire. Et on sait que c'est trop tard, ça y est, c'est fait. Donc au contraire, je pense qu'il faut s'en détacher pour pouvoir recréer son propre imaginaire à partir d'un animal qu'on a en commun avec un autre auteur. Parce que sinon, après, on fait la même chose. Et...
Voilà, mais on peut aussi aller piocher là.
Oui, on pioche de toute façon forcément partout. Voilà. Ça, je pense que ce soit conscient ou inconscient, on a toujours.
La redite, justement,
voilà, mais je crois que c'est important aussi de pouvoir s'en détacher. Il y a déjà cet émerveillement, ensuite cette frustration en tant qu'auteur de se dire j'aurais aimé pouvoir avoir cette idée, et après se dire à moi de créer mon propre monde et d'avoir ma propre idée pour pouvoir finalement être dans la continuité de l'univers imaginaire du dragon.
Qu'est-ce qu'il y a à réviser d'ailleurs? Est-ce que quels sont vos maîtres dragons? Déjà, apparemment, les grands classiques, Fafnir,
tout ce du folklore, en fait, il y a des folklores, des mythes. Nidog.
Nidgardson. J'aime bien l'élevage de dragons. L'élevage des dragons des Melniboneens, c'est Elric, le dragon, parce qu'il y a plein de dragons. Hop, j'en prends un, tagada. C'est vachement bien. C'est une espèce de revisite, en fait, une fois de plus. Bon, alors c'était un peu des dragons de poche, vous pouvez grimper dessus, ça, mais c'était pas mal. Ben, après, oui, des très très grands classiques de la littérature, mais on en revient toujours au siècle dernier. Et puis deux, trois films. Pour gamin, certes, mais mine de rien, pas si bêta que ça, tu vois, Cœur de Dragon, par exemple. Mmh. Ouais, c'est super intéressant pour les gosses, hein, de leur montrer, tu sais, cette poursuite obsessionnelle, tuer les dragons, tu arrives au dernier qui dit, vous allez me foutre la paix. Et ça, c'est super intéressant. En fait, encore une fois, on en revient toujours à la même chose, ça te permet de plaquer plein de choses. Donc tu veux faire des contes un peu philosophiques et parler de choses finalement importantes. Le dragon, c'est la créature qui fait peur, c'est celle qu'on ne connaît pas. Donc on y va et peux, tu peux. Hein. Moi, je trouvais que Cœur de Noir, c'est plutôt bien foutu. Mm-hmm. Tu vois.
Puis là aussi, c'était un beau dragon, un vrai ouais, beau ouais, dragon. Beau, ouais,
avec des disquettes pas encore complètement éclatées.
Et ça, ça fait. Et puis des, non, puis des scènes, des images fabuleuses, ouais, ouais. Quand ils montent dans le lever de soleil, c'est énorme. Ouais,
c'est par contre, c'est sûr, les illustrateurs qui massacrent les dragons, ça existe aussi. Hein.
Oui.
C'est... quand tu passes, ne serait-ce que pour Marc Caffrey, des couvertures de Sudmac aux couvertures de Carvevent, tu pleures, tu pleures.
Bah,
mais clairement, quoi.
Bah, moi j'adore
j'aime ce qu'il fait pour la SF, mais alors pour les dragons de Perne, excuse-moi, mais les dragons avec des ailes en dentelle.
Bah, moi j'ai adoré ses illustrations.
Ah, j'ai détesté. Mmh. Mais moi je suis approche d'une Mac aussi.
Non, mais comme quoi un illustrateur.
Ouais, ça. Oui, l'illustrateur, c'est comme l'auteur, il a le droit de réinventer son image.
Oui, oui, mais tout à fait, mais pour moi, ça crée bien. Comment dire ah, c'est plus qu'un traducteur, c'était un blasphème. C'est très bon. De voir comment ils peuvent voler ces dragons.
Tu l'écoutes ou tu l'écoutes pas?
Oui, c'est ça.
Parce que là, il n'y a plus question de magie. Pour Perle, c'est pas une question de magie.
Ceci n'est pas que tu viens de t'approprier un truc, le mot donne une image, et puis d'habitude,
tu dérouches. Justement, au niveau représentation, là on a vaguement parlé des auteurs, donc, représentation physique, graphique, est-ce que vous avez des représentations?
On vous entend plus là.
Mais c'est parce qu'il parle.
Oui.
Est-ce que...
Tu vas arrêter, ta mère et moi, on ne sait plus quoi faire. Donc maintenant, ça
suffit. Oui, justement, est-ce que vous avez des références visuelles des dragons, tous les trois? Est-ce que vous avez vos préférences graphiques de
vos dragons préférés?
C'est qui vos dragons préférés?
Moi, j'ai dit...
Ouais, c'est vrai qu'il y a les illustrations de John O, ça c'est sûr que ça m'a voilà, c'était difficile de passer à côté quand j'étais jeune. Après, ouais, bah, j'ai pas de préférence dans le sens où, comme je dis tout le temps, je trouve que tout est réinventable. Donc après, je peux être marquée par une illustration, je me dis waouh celle-là, et puis en voir une autre qui est très différente, me dire waouh celle-là aussi finalement, parce que tout se réinvente et tout est. Chacun peut imaginer le dragon comme il veut, avec des éléments communs, mais malgré tout. C'est toujours intéressant de voir comment les autres. Au même titre que de découvrir un livre et de voir comment un autre auteur va créer son univers de dragon, découvrir comment un illustrateur va créer sa vision du dragon, je trouve que c'est toujours passionnant. On aime ou on n'aime pas, mais c'est intéressant de voir que chacun va encore une fois s'approprier. Cet élément, et il a son image, mais comment il va la modifier, comment il va la modeler, comment il va apporter tous ces éléments personnels et ces éléments d'inspiration pour le recréer, je trouve que c'est toujours très intéressant. Donc, moi, je suis toujours curieuse de voir les différentes interprétations qu'on peut en donner.
Et pourquoi, alors justement, là, pour en revenir au dragon même en tant que bête primale, pourquoi le dragon et pourquoi est-ce qu'on reste attaché au dragon et pourquoi on ne va pas vers les griffons, les basiliques, pourquoi pas d'autres créatures merveilleuses qu'on retrouve aussi? Pourquoi est-ce qu'on retombe toujours sur le dragon?
Ou pas, Harry Potter a pioché dans tout le bestiaire, il s'est fait plaisir. Et il n'y a pas dans Harry Potter, ce que j'aime bien, c'est que tu n'as pas de hiérarchie. Hein. Ils sont tous là pour jouer un rôle bien précis. Et pareil, elle propose une relecture de nombreux bestiaux. Hein. Enfin, le griffon, il est terrifiant. Il y a plein de choses, c'est vraiment super agréable.
Comme ça aussi, chez Gregory, dans le premier déclair, ouais. Ils mixent les griffons. Enfin, toutes les créatures ont leur cavalier. Finalement.
Alors, le truc, mais on en revient toujours à la même chose, c'est presque plus évident, à défaut d'être facile, d'aller vers un dragon. Parce que dragon, bah, ça, t'es sûr que ça parle à tout le monde. Tu vois, et tu as certaines créatures qui échappent à d'autres folklores. Et là, tu es dans une espèce de traduction, il faut y aller au forceps, il faut l'imposer. Tu vois, le justifier. Rowling, quand qu'elle écrit Harry Potter, elle est sur un folklore, tu vois, anglo-saxon, celte. Elle sait que son lectorat de base va adhérer, va piger, elle est dedans. Mais quand tu réinventes un truc, c'est parfois compliqué.
J'ai utilisé Félix aussi dans une biologie. Hein. C'est intéressant aussi de découvrir qu'il y avait aussi un phénix en Asie, qui n'est pas tout à fait le même que l'image judéo-chrétienne qu'on en a ici.
Qui est un pélican.
Donc j'ai trouvé ça intéressant d'explorer le phénix. Et puis après, moi, j'ai, comme le dragon, je l'ai réimaginé à ma sauce. J'ai associé le mythe des amants éternels à Shakespeare, à celui de l'oiseau éternel qui redonne ses cendres. C'est une façon de relier deux mythes entre eux et de recréer ma propre mythologie à partir de cet oiseau. Mais après, quand j'ai fait des recherches, quand j'ai découvert qu'en Chine, il y avait aussi un phénix, ça m'a étonnée. Je n'étais pas du tout au courant que les Chinois avaient un phénix. Alors, les différences, c'est deux entités, etc. Mais c'est vraiment intéressant de voir qu'effectivement, il y a des choses collectives quand même en humanité qui ressurgissent. Et c'était intéressant aussi de pouvoir partir sur un autre mythe et explorer autre chose.
Pareil, mais c'est vrai que l'oiseau géant, que ce soit l'oiseau roc, le phénix et même le quetzal en Amérique du Sud, bon, le quetzal c'est un mythe souvent du dragon et du phénix.
L'oiseau tonnerre.
Ouais, l'oiseau tonnerre, oui, on en revient toujours aux forces de la nature.
Complètement.
Que ce soit le tonnerre, l'éclair, les tremblements de terre. Sec. Je le dis, hein, je suis honnête.
Non, mais c'était bien.
Quel beau là-bas.
Est-ce que vous avez des questions particulières? Aidez-moi, pitié.
Oui.
Francis, je suis là.
Merci, Clément.
Juste pour revenir sur le fonds culture commun, ça a été établi par la recherche il y a déjà quelques années. Ce qu'on appelle le motif index de Stiff et Arne qui regroupe en fait un fond de mythes communs à toutes les cultures humaines. Donc oui, ça, c'est pas étonnant que le phénix soit aussi présent en Chine, parce que ça toute structure humaine a un fond de ressemblance dans ces récits.
J'ai vu qu'il y avait ils avaient trouvé ou déduit un langage commun, une racine commune plus que indo-européenne, avant,
ouais,
qui s'est vraiment ramifié sur tous les continents.
C'est ça.
Donc le principe de la ramification de la culture centrale, primale, est en train vraiment de se remettre en place.
Mais tout à l'heure, j'en ai glissé qu'il n'y avait pas de dragon en Afrique, donc vous ne le savez pas, mais pourquoi il n'y a pas de dragon en Afrique?
Il n'y a pas de dragon en Afrique, mais il y a des bestioles bizarres qui ressemblent à
d'autres créatures. C'est des cousins, mais ce n'est pas des dragons. Alors, je n'ai pas retrouvé le mais je sais qu'il y a un empreint africain, et encore une fois, c'est une empreinte. Le seul dragon que tu trouves, c'est sur un drapeau personnel, et c'est Saint-Georges. Donc tu vois, c'est encore une vision christianisée qui a été rapportée, et que l'empereur africain s'est approprié. Mais c'est la seule trace qu'on trouve en Afrique. Je ne sais pas pourquoi.
Mais en Afrique, il y a l'oiseau roc qui est censé enlever les éléphants. Voilà, je ne me souviens plus du nom de cette bestiole qui est censée être plus ou moins un dinosaure à long cou en Afrique centrale.
Oui, tout à fait, c'est un nom que je connais sur
Il a un nom un petit peu tarabiscoté notre culture.
Quand j'étais journaliste, j'avais fait un article dessus.
Il y a, mais pas sous la forme draconique occidentale ou asiatique.
Je pense aussi, alors
c'est une théorie très très...
J'ai une théorie très très personnelle, c'est qu'en Occident, on l'a christianisé. C'est-à-dire que le dragon, très très vite, ça a été Lucifer, ça a été le mal absolu.
Ça s'est cristallisé.
En Afrique, comme on est resté polythéistique très très longtemps, tu as énormément de créatures. Et on n'a pas tout synthétisé dans l'espèce de bête. C'est une théorie très perso, si ça se trouve, c'est complètement fantaisiste. Mais en tout cas, c'est pour avoir vécu au Comores, pour rencontrer plein de. J'ai cette perception-là. C'est-à-dire qu'il y a, il y a quasiment une créature pour chaque, tu vois, chaque problème, chaque chose comme ça. Alors que nous, on s'est dépêché, c'est le couteau suisse, quoi. On en revient. Mais en gros, il y a.
Comme couteau suisse.
En fait, en Europe, le dragon, c'est devenu un mauvais rêve. Parce que si tu prends la tarasque, si tu prends le dragon de Draguignan, si tu prends la viverne, la vouée, enfin, on a des tonnes de dragons, ils ne se ressemblent pas du tout. Même anatomiquement parlant, ils ne se ressemblent pas du tout. Et on appelle tout ça dragon.
Même les basiliques sont.
Tout ce qui est reptile fantastique sur les vitraux du Moyen-Âge, il y a une sacrée différence au départ entre la rue et le basilic et le dragon de Gravignan. Enfin, il y a des bestioles qui ne se ressemblent absolument pas, qui n'ont pas du tout les mêmes façons d'agir, qui n'ont pas eu les mêmes façons d'être matées. Enfin, et pourquoi toutes ces bestioles-là ont été ramenées au dragon, effectivement, uniquement pour pouvoir le diaboliser et dire c'est la fin, c'est Satan, c'est
notre
mal,
sphère,
et on prend tout ça et on fait le petit jouet. Comme ça, là,
ça va. Ça va. C'est la fin.
Ça donne envie, lâche-toi, lâche-toi.
Ah non, je t'assure.
Il y a un terme générique aussi pour le dragon, qu'on trouve plus dans le sud, c'est drac. Et le mot drac, ça désigne aussi le diable. Donc voilà, c'est à partir du moment où tout ce qui peut être dragon ou diable, on le désigne du même mot. Et moi, j'ai repris drac, mais c'est énergie magique.
Et c'est un terme qui est beaucoup utilisé pour désigner les rivières aussi.
Oui, parce que c'est
à Grenoble, le drac et l'Isère se rencontrent.
Il y a même un cheval qui s'appelle le drac et qui est démoniaque.
Quoi donc ?
Il y a un cheval qui s'appelle le drac dans ces régions-là et qui est démoniaque. Et qui justement précipite les gens dans les rivières. Tout est lié.
Est-ce que la représentation occidentale du dragon a évolué avec la redécouverte d'ossements, de dinosaures, de vieux ossements? Est-ce qu'on a fait évoluer notre imaginaire du dragon par des découvertes archéologiques ou j'ai bouffé mon paléo et des ouest
paléontologiques.
Merci. Ou est-ce que c'est une image qui était tellement forte qu'elle n'a subi presque plus aucune influence depuis 500 ans?
Oui et non. Moi, je dirais oui et non. Oui. Puisqu'en fait, à partir de maintenant où on découvre que finalement les dinosaures avaient des plumes, on se rapproche de quelque chose d'encore plus primal. Et maintenant, quand je dis. On imagine les T-Rex avec des plumes, c'est fabuleux. Ouais.
Et de savoir que les poules avaient déjà
des dents. Et le pire, c'est de voir juste une oie. Une oie qui te feule dessus. Quand tu te rends compte que l'oie a des dents sur le bec et sur la langue.
Et techniquement, le raptor, c'est un gros poulet.
Ça me fait penser à un roman publié chez La Talente.
Ils sont plus petits que
nous. Il y a du monde à bouffer dessus.
Oui.
Je ne sais pas si vous avez lu Une histoire naturelle des dragons de Marie Brennan chez La Talente, où c'est l'histoire d'une. Elle a recréé un univers qui ressemble un petit peu au 19e siècle, avec une espèce de bourgeoise, d'une jeune fille qui est élevée dans une famille bourgeoise où les femmes ont une place un peu de plante en pot dans un coin de. La maison toute bonne à être mariée, et la jeune femme est passionnée par les dragons. Elle vit dans un monde où les dragons existent, mais on en fait de la recherche naturelle comme on part à la recherche des autres dinosaures. Et elle part en voyage comme ça, ce qui ne se faisait pas à l'époque pour une jeune femme de bonne famille, partir à la recherche des dragons. Donc il y a tout un univers recréé comme ça, où on relie justement l'archéologie des dinosaures avec celui des dragons dans ce roman, et je trouve que c'est très amusant comme histoire, c'est très bien écrit et ça devient hyper réaliste parce qu'on a l'impression d'être dans la société, on va dire, victorienne à l'anglaise, qu'on connaît bien, à mélanger avec cet univers imaginaire. C'est Histoire naturelle des dragons, ça a été publié l'année dernière chez La Talente.
Il y a deux tomes avec un dragon de l'air et là, après, un dragon de l'eau.
C'est ça.
C'est très, très simple. Ça renouvelle bien.
Oui, je trouve aussi, hein, c'est vraiment bien fait.
Et tu gardes l'info pour toi, quoi.
Et sinon, pour en revenir à ta question sur l'illustration, si tu remontes à 500 ans d'ici, c'est, j'allais dire, une vision quasiment étatisée du truc. C'est-à-dire
c'est christianisé.
Voilà, c'est christianisé à mort, et à partir de là, on va être hyper influencé. Petit à petit, peut-être, on va essayer de sortir du carcan, mais ça a bien quatre pattes, deux ailes, une gueule, et ça craint des pattes. Et après, on va se mettre justement à varier.
De par mes recherches sur le Moyen-Âge, j'ai toujours vu à peu près l'image du dragon qui a presque pas bougé pendant un millénaire.
Ouais.
Mais je sais pas s'il y avait. Enfin, s'il a réellement évolué avant, après, ou si. On est passé au travers des grandes découvertes de la préhistoire et sans influencer notre imaginaire déjà en place.
Je ne sais pas si ça a été influencé par l'imaginaire, pas plus que ça. L'archéologie a influencé l'image plus que la pratique et l'utilité. Comme Jean-Luc disait, c'est un couteau suisse. Et on est passé de l'outil très facile à un outil de plus en plus performant. Comme je le disais, on est passé de la bête qui était un petit peu pataude, qui ressemblait effectivement à un varan avec des ailes de chauve-souris, à quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus haut sur pattes, qui va avoir des mouvements beaucoup plus aérodynamiques. Oui, peut-être que la... Merci. Peut-être que la technologie, les découvertes, enfin, l'utilisation de l'aérodynamique a fait que, tiens, finalement, mais en fait, une grosse bête qui vole, si elle peut voler, elle va pas juste faire clap clap, elle va commencer à piquer, surtout si c'est un prédateur. Et après, voilà.
Il y a ça, il y a le fait aussi qu'au départ, c'était juste le mâle, donc il fallait que ça fasse peur. Et puis petit à petit, on s'est mis quand même à lui accorder une intelligence et une volonté. Et puis voilà. Et puis là, pour le coup, il a pris corps, il a surtout pris esprit. Et on s'est dit, tiens, il y a une logique dans tout ça, il faut qu'il soit capable de.
Faut finir par parler. Faut finir à une intelligence. Il a même s'il est corrompu, il a une réflexion.
Et bien, tu vois, ça, c'est un peu commun avec l'Asie. Le fait qu'un homme, plus ou moins corrompu, à mesure qu'il se laisse corrompre, va tendre vers le dragon.
Et le dragon.
Oui, peut-être battre, pour le coup, vers le mal. Parce que c'est le dragon. Les dragons, les autres sont des créatures célestes. Il y en a d'abord les deux, ils sont gentils.
L'image du dragon bénéfique est arrivée quand ? C'est très récent ou on a déjà
eu. Elle était là en premier.
Le
dragon associé à la déesse mère est bénéfique. Et il a été diabolisé à partir du moment où le patriarcat a tout dominé et où il fallait absolument abaisser.
Et on l'a ramené à nouveau dans notre culture à partir de quand ? Donjon Dragon
n'était pas sympa non plus.
Excuse-moi, je n'ai pas entendu.
Est-ce que c'est ADD qui a permis de ramener le bon dragon ? Est-ce que c'est. Non,
rappelle-toi, Gygax, il a pompé des tas de bouquins, il les cite d'ailleurs.
Il s'est nourri
de romans qu'il avait lus au départ, Procure et Trois Lions, il les cite tous, Poul Anderson, les grands classiques, bien sûr. Il les a lus, digérés, et ensuite il a refait son truc, il s'en est inspiré. Non, c'est pas lui qui a posé les bases, mais en revanche, c'est lui qui a ramené toute une génération vers ces bases-là et qu'on s'est réapproprié. Ouais, tu avais des auteurs qui finalement n'étaient pas encore à l'universel, qui avaient déjà des œuvres conséquentes, mais qui n'avaient pas encore touché. Et Donjons et Dragons, parce que ça a été une espèce de raz-de-marée, ramener toute une. On parlait, c'est marrant parce que toutes les générations te lisent, nos enfants ne lisent plus. Ça a ramené toute une génération à l'anglais, déjà, parce qu'il fallait tous faire en import, à la lecture. Puis à l'époque, ça existait encore, les maxi-livres. T'avais l'encyclopédie d'Hydro d'Alembert qui traînait à 10 balles la tonne, dont personne ne voulait, et tous les gamins sautaient dessus parce que t'avais les armures, les épées et justement les créatures. Donc c'est rigolo. Gygax, il a ouvert la bibliothèque, si tu veux. Et je pense que c'est après que. Et quand tu regardes ça, il y a eu effectivement, je crois. Une nouvelle génération qui, là, c'est devenu flamboyant. Avant, il y avait des visions très arrêtées du dragon. Original, hein. La synthèse s'est faite à peu près à cette période-là, je dirais.
Après, ça va de pair avec l'évolution du fantastique en France et l'explosion du fantastique.
Bien sûr.
L'image du dragon, elle a évolué en même temps que l'explosion du fantastique dans la littérature moderne.
Donc on a une...
Par exemple, dans les lances-dragons, tu as les dragons chromatiques qui sont les dragons mauvais et tu as les dragons métalliques qui sont les bons dragons. Tu as les deux sur la même espèce. C'est comme chez les humains, tu as les bons et les mauvais. Et puis tous ceux qui sont un peu les deux selon le point de vue. Parce que bien et mal, en fait, bénéfique et maléfique, c'est hyper subjectif. Tu peux être bénéfique pour les uns et maléfique pour les autres en même temps.
Ce qui nous donnerait une réapparition du dragon bénéfique au XXe.
Ça dépend dans quel culture.
En Europe.
En Asie,
ils ont toujours été bénéfiques.
Ouais, en Occident, c'est
Occident,
ça.
Occident, parce que les États-Unis, c'est
ou moins, enfin, les États-Unis, c'est quand même une émanation.
Oui, mais c'est Occident.
À la base.
Donc, ouais, enfin, Occident.
En Amérique du Sud, en fait, c'est une force primale.
Il est neutre, en fait.
Il est neutre.
C'est une force de la nature.
C'est une force de la nature. Ouais.
Bah, l'esprit de la nature, en fait.
Qui va aider les Sud, en fait.
Ou les punir, si jamais. Ils sont protecteurs de la nature.
C'est ça.
Ou être, là, pour le coup, c'est des gars de la
c'est parfaitement compris, avec l'alignement, c'est l'équilibre.
Mais si on prend le dragon tellurique, par exemple, qui est réputé garder les veines aurifères, enfin toutes les veines dans les montagnes, ne pas aller trop loin quand on exploite une mine parce qu'on a peur d'éveiller le dragon, quelque part, c'était une démarche écologique. À partir du moment où on arrête d'avoir peur du dragon, eh ben, on foire hyper profond et on pourrit tout. Donc,
je me demandais à partir de quel moment le dragon il devient justement ce dragon protecteur de trésors, etc. Moi, dans ma tête, le dragon, il a des ailes, souvent, il peut voler, c'est la liberté. À quel moment il se plante dans une caverne et il bouge pas, il surveille un trésor, quoi. Là, ce mot, je comprends pas.
D'un côté, il y avait effectivement il y a Fafnir et le trésor des Nibelungen et toute cette partie-là. Et effectivement, le dragon du fond, l'ours de fond de caverne,
le Suisse,
qui on trouve des ossements au fond avec des dents comme ça.
Sans ailes.
Il n'a pas besoin d'être dans une caverne. Voilà, il y a de la logique dans ce qu'on peut s'imaginer. Mais oui, c'est le dragon qui garde le trésor, c'est les mythes nordiques.
Il y a un Américain qui a fait une série qui s'appelle Dragon d'ailleurs, qui lui donnait pour explication qu'en fait ça leur servait à renouveler, entre autres, les pierres précieuses, leur servait à renouveler leurs écailles.
Le dragon pratique la lithothérapie.
C'est-à-dire qu'en fait, il fallait qu'ils mangent des pierres précieuses pour pouvoir refabriquer des écailles.
Ça a été repris, même Smaug,
il a les écailles couvertes de pièces. Ça lui fait une deuxième arme.
Ouais, ça, en fait, sa chaleur fond le métal.
C'est ça.
Et on retrouve là, de toute façon, le dragon, c'est les quatre éléments. Il a les ailes pour voler, il crache du feu, la queue est définitivement aquatique, et les pattes terrestres. On a les quatre éléments. Il réunit, c'est ça aussi qui est passionnant avec le dragon, c'est la bête alchimique. Elle réunit tout. Et de par sa création, c'est l'éther.
Le seul qui s'en dégage un petit peu, c'est Paul Figby avec le dragon des marées de Pratchett. Ils ont des petits machins qui servent à rien en fait.
Oui, mais c'est voilà. Et encore, on retombe sur les dragons de feu de McCaffrey.
Les dragons féeriques avec leurs ailes de papillon.
Mouchou.
C'est bien. On va les garder.
Alors, ce qui n'est pas évoqué dans la mythologie aussi, c'est les protées. On en a retrouvé des larves de dragon dans les fonds d'une caverne.
En Suisse
aussi, qu'il n'y en ait pas plus que ça en Suisse.
Alors, ouais, possible. Moi, je parlais juste vraiment de la naissance du mythe. Donc, je pense que c'est venu après. Là, ce dont je vous parle, c'est la découverte. Les premières traces, c'est quasiment avec l'écriture. C'est-à-dire, les premiers témoignages de Suisse, c'est là. C'est très très tôt que ça pourra commencer à faire naître le mythe des cavernes. Après, je pense qu'il a fallu un minimum d'analyse et de connaissances scientifiques pour identifier, mettre un mot dessus et chercher.
C'est vrai que les protées, je crois. crois, en Suisse sont appelés aussi l'herbe dragon. Ouais, et on a découvert il y a peu de temps que en fait, ça a une longévité bizarre.
C'est quoi les côtés ça?
C'est avant la salamandre, c'est pas la même chose. C'est une bestiole bizarre qui vit au fond des cavernes, sans lumière, sans rien. Et qui a ça peut s'endormir pendant des années, et puis ça peut se réveiller.
Et ça a quelle taille?
C'est une forme vernaculaire entre le tétard et la salamandre. Et je crois que c'est une longueur de vie de. Ils se posent encore des questions, 100 ans sur.
Ils estiment le cycle
seconde
à
1 siècle. Voilà, c'est l'axe.
Alors après, regarde, au Moyen-Âge, on a toutes sortes de croyances qui vont naître. La salamandre, donc on sait aujourd'hui que ça va ronfler tranquillement pour hiberner dans une souche et qu'on lui fout de la paix. Tu coupes la souche, tu la colles pour alimenter ton feu, forcément la salamandre sort. À partir de là, on te dit, ça vit dans le feu et c'est-à-dire ça résiste au flammes. Non, tu prends une de ces gros petites bêtes, tu la colles sur et tu fais du barbecue, ça crame comme tout. Hein, c'est horrible. Non, j'ai essayé. Le monstre, c'est.
Dr. Jones, vous allez voir.
Non, mais il y a eu plein de trucs comme ça. Aujourd'hui, je m'étais amusé à lister les dragons existants encore. Donc, il y a des dragons volants qui sont des petits lézards à ailes. Il y a les dragons de Komodo, mais il y a aussi le dragon australien qui lui est juste sublime. Vraiment, je vous invite à regarder sur Google encore une fois ou moteur de chat qui vous plaira. Ce sont des hippocampes, mais qui ont des ailes. Et c'est extraordinaire. Il y a des feuilles, c'est sublime. Et effectivement, avec cette gueule là et le rapport avec la queue et les ailes, tu as vraiment un dragon marin.
Ils arrivent à se faire passer pour des algues.
C'est sublime, hein. C'est très 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 beau.
Mais ça fait vraiment un dragon minuscule.
C'est ça. Là, c'est une espèce protégée. Je vais faire élevage à moindre frais.
C'est
pas une espèce protégée?
Si.
Tu en as des bleus, tu en as des dorés, tu vois, c'est extraordinaire. C'est sublime. Tu es sur la grande barrière de corail et la marée.
Ce qui est, tu parlais de la salamandre, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, on est prétendu que la salamandre, ça vit dans le feu, alors qu'en grande majorité, ça vit dans la flotte.
Oui, et puis surtout, dès que tu allumes le feu, ça se barre.
C'est en Chine ou en Japon, je ne sais plus. Tu as des salamandres géantes, elles sont, mais. Ascom, quoi.
Ça rigole pas, hein.
Et c'est pas très joli, ouais, c'est pas sexy comme bestiole. C'est un espèce de museau tout arrondi comme ça. C'est quasiment tout plat avec des petites pattes très trapues. Mais ça fait penser aussi, d'une certaine façon, le corps, pas le museau, mais le reste du corps, peut faire penser au corps d'un dragon aussi.
Un proto-dragon et une larve dragon.
Un dragon pas fini.
Voilà.
Différent.
Voilà.
Voilà.
Est-ce que
mais pas méchant.
Ou est-ce qu'on libère tout ce monde?
Un café et la
bien, je vous remercie de votre patience. Merci.